journal avec vous, Laurence Thomas.
Bonjour.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce lundi, plutôt prévenir que guérir, le port du masque obligatoire en public s'intensifie. Le Premier ministre Jean Castex attendu à Lille aujourd'hui. Les autres titres, Laurence.
Une renaissance, tout un symbole pour l'Italie qui inaugure ce lundi la reconstruction du pont de Gênes, moins de 2 ans après la tragédie qui avait fait 43 morts. Taxi contre Uber, le droit est-il en train de basculer du côté des taxis après l'arrêt de la Cour de cassation des taxis attaquent Uber dans le cadre d'une action collective inédite. Les gardes forestiers ont les forêts françaises à l'œil, menace de feu avec la canicule en vue en fin de semaine. Et puis les amours de vacances au temps du Covid, boîte de nuit fermée, gestes barrières, rassemblement limité, une période pas bien facile pour faire de nouvelles rencontres.
Les invités de la matinale, d'abord l'historien Romain Hurès, c'est un spécialiste des États-Unis. À 3 mois tout juste du scrutin présidentiel, est-ce que l'élection lui semble déjà jouée? Nous lui poserons la question. Et puis à 8h20, nous ferons le point sur la situation de l'eau en France. Comment s'adapter quand il y a rareté? L'hydrologue Emma Aziza sera notre invitée. Vos questions au 01 45 24 77000. Le standard est ouvert ou sur l'appli franceinter.fr.
France Inter.
Saint-Malo, Perros-Guirec, Tours, Biarritz, Bayonne, la métropole lilloise où quand de nombreuses villes de France emboîtent le pas aux 69 communes de Mayenne. Port du masque obligatoire dans tous les lieux publics, y compris en extérieur et quel que soit le quartier et pas seulement en centre-ville. Jean Castex, le Premier ministre, est attendu ce matin à Lille pour le lancement de ce nouveau dispositif qui espère freiner la reprise de l'épidémie en cette période estivale. Les preuves s'accumulent pour dire que le Covid-19 se transmet aussi via les micro-gouttelettes en suspension dans l'air et pas seulement via les postillons. Cependant, pas toujours facile de s'y retrouver. Ainsi, la ville de Lille a publié une carte précise. Le masque est obligatoire dans les rues en rouge, là où la densité de commerce et de personnes est la plus forte. C'est le reportage de Marie-Jeanne Delepol de France Bleu Nord.
Exemple, la place de Strasbourg, au carrefour entre la rue Masséna et la rue Nationale. Dans la première, le masque est obligatoire, mais pas dans la deuxième. Pour Niena, ça n'a pas de sens.
C'est assez bizarre. Par exemple, sur cette rue-là, je le porte pas. Mais si je dois le porter là-bas, ce serait... Enfin, je vais pas dire que c'est stupide, mais... Quitte à porter le masque obligatoirement, autant porter le masque dans toutes les rues. Soit tu le portes tout le temps, soit tu le portes pas. C'est tout.
Et lui, dimanche, il ne le portait pas. Enfin, si, mais sur son poignet. Emma, au contraire, n'est pas encore dans le bus, qu'elle a déjà le masque sur le nez.
J'aime pas être dans les rues sans masque, parce que ben, j'ai toujours peur que si je croise quelqu'un... Je me prenne des projectifs, on sait jamais. Du coup, je pense que c'est bien de faire ça en prévention, parce que... Ça va permettre d'essayer de ralentir un petit peu le virus.
À partir d'aujourd'hui, comme elle, il faudra porter un masque aux arrêts de bus et de tram. Les abords des gares, les parcs et les zones piétonnes sont aussi en zone rouge. Dominique a étudié scrupuleusement la carte de la mairie de Lille.
Je l'ai vue sur Internet, donc j'ai regardé les rues qui étaient possibles. Voire même, j'essaierai de prendre celles qui ne sont pas rouges pour ne pas porter le masque. Faire un détour, carrément. C'est inconfortable, quand même, le masque. Bon.
Mais il en a quand même toujours un dans la poche, au cas où, sans masque, vous risquez une amende de 135 euros.
Et jusqu'à 6 mois de prison et 3750 euros en cas de récidive. 2 jours après la bagarre générale de 200 jeunes sur la base de loisirs d'Étampes en Essonne, des drones avec haut-parleurs vont désormais surveiller le lieu pour empêcher les débordements au sein des espaces de détention. Prévention aussi dans les forêts françaises, mais cette fois pour les risques d'incendie. Les fortes chaleurs et la sécheresse pourraient bien transformer des massifs forestiers en brasiers. Dans le Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône, plusieurs forêts sont déjà fermées au public. 9 incendies sur 10, rappelons-le, ont une cause humaine et le plus souvent accidentelle. Et toutes les régions sont concernées, y compris plus au nord, comme en région parisienne, à Fontainebleau, où l'Office national des forêts multiplie les patrouilles à cheval, notamment pour être au plus près des visiteurs. C'est le reportage de William Delissu.
Casquée et équipée, Sophie David démarre sa ronde au trot dans les chemins à l'est de la forêt. Sous les sabots de sa monture, les herbes très sèches cette année.
On n'a pas eu d'eau depuis, vraiment de grosses averses ou de grosses intempéries depuis très longtemps. Donc une simple braise, une simple étincelle peut provoquer un incendie. Donc en fait, tous les endroits sont dangereux, même si on a l'impression que là, l'endroit où on le fait, il n'y a pas de danger, il y a toujours un danger.
Premier arrêt auprès d'un groupe de promeneurs parisiens.
Bonjour.
Qui sont aussi des fumeurs.
Il y a des fumeurs, mais on fait très attention, on fait extrêmement attention.
Les mégots, on les ramène. Moment,
Julien Vabre fait également partie de la brigade des 10 cavaliers. Il le martèle, tous les feux sont interdits.
C'est même interdit d'apporter du feu en forêt. C'est-à-dire que même en théorie, vous ne devriez pas venir avec un briquet ou des allumettes en forêt.
Pour les feux, je savais ce que c'est marqué sur les panneaux de parking, mais pour la cigarette, moi, je ne savais pas.
François Faucon, technicien forestier à l'ONF, patrouille en voiture. Pas question de baisser la garde.
On a quand même une forêt qui reçoit environ une dizaine de millions de personnes par an. On n'est pas à l'abri d'un départ de feu au bord d'un sentier avec des personnes qui se retrouveraient au milieu.
Fumeurs ou campeurs allumant un feu, tous risquent une amende de 135 euros.
William Delesseux.
L'Italie se prépare à inaugurer en grande pompe le nouveau pont de Gênes, 2 ans après l'effondrement de l'ancien qui avait fait 43 morts.
Et l'Italie, réputée championne de la lenteur dans l'exécution des travaux publics, a mis les bouchées doubles pour construire le nouveau viaduc de 1067 mètres de long. À l'origine de la reconstruction du nouveau pont de Gênes dessiné par l'architecte génois Renzo Piano, le géant du BTP italien Webuilt, son patron Pietro Salini veut voir là le symbole d'une Italie qui se redresse.
L'effondrement du pont Morandi a été une blessure terrible pour la ville, pour le pays, pour nous tous. Comment est-ce possible que de telles catastrophes arrivent dans notre pays? Comment est-ce possible, avec notre expérience, notre savoir-faire, nous n'avons simplement pas entretenu ces infrastructures alors que nous sommes les descendants des Romains? Je voudrais que ce nouveau pont soit un message, qu'il soit l'origine d'un grand plan pour le pays, d'entretien et de reconstruction des infrastructures, pour donner du travail à des millions de personnes qui attendent et qui en ce moment sont terrifiées dans leur maison et ne savent pas ce que leur réserve l'avenir.
Pietro Salini, le patron du géant du BTP italien Webuilt, et ce pont va rouvrir mercredi à la circulation. Un autre chantier, mais cette fois-ci en France, il s'agit même d'un chantier dans le chantier. La dépose du grand orgue de Notre-Dame de Paris, elle démarre ce lundi. Les 8000 tuyaux n'ont pas été touchés par les flammes en avril 2019, mais ils ont subi de fortes variations de température dans l'incendie. Et puis dans la foulée, la canicule de juillet 2019, la restauration de l'orgue va s'étaler jusqu'en 2024. La guerre, toujours et encore, entre les taxis et les VTC. Des centaines de taxis se lancent dans une action collective contre Uber pour concurrence déloyale. Et pour cela, ils se basent sur la décision de la Cour de cassation qu'il y a quelques semaines a conclu que la relation entre un chauffeur de VTC et la société californienne, eh bien, cette relation, il s'agissait bien d'un contrat de travail et non d'un travail d'indépendant. Alors avec cette jurisprudence, ils espèrent, les taxis, obtenir réparation du préjudice moral et financier. Delphine Simon.
Sur la côte varoise, en pleine saison touristique, la concurrence avec Uber frappe de plein fouet les chauffeurs de taxi. Une concurrence déloyale, dénonce Laurent Le Dantec, responsable d'une soixantaine de taxis. Il est à l'origine de cette action collective au nom du préjudice moral et financier.
Dès l'arrivée des saisons estivales, nous subissons des migrations importantes de chauffeurs Uber qui créent des dommages, compensés par une augmentation des horaires de travail et des taxis qui travaillaient 10-12 heures par jour sont passées à 15 ou 16 heures. Et le préjudice moral, aujourd'hui, le taxi est montré du doigt.
Comme 700 taxis, il s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation qui vient de requalifier le statut de chauffeur Uber en salarié avec des cotisations sociales à payer. Maître Philippe Bruzeau, le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, les représente.
On est au départ d'un 100 mètres, Uber et les taxis, et Uber a 50 mètres d'avance. La perte qui en est résultée pour les taxis est considérable. Nous, on paye des charges sociales, eux n'en payent pas. La Cour des cassations a voulu dire stop, il y a une rupture d'égalité devant les charges.
Il compte assigner Uber en septembre devant le tribunal de commerce de Paris.
Delphine Simon, direction le Brésil, où les conséquences de l'épidémie de coronavirus sur l'économie sont catastrophiques.
Le pays n'était pas encore sorti d'une longue crise économique lorsque le Covid-19 est venu aggraver la situation. Depuis fin juin, plus de la moitié de la population en âge de travailler est sans occupation professionnelle. Et ce sont les travailleurs informels qui représente plus de 50% des travailleurs qui souffrent le plus. Reportage de Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro, où les vendeurs ambulants des plages ont pu reprendre le travail hier dimanche.
Sur la plage de Copacabana, on est loin de l'effervescence habituelle d'un dimanche ensoleillé. Peu de gens se dorment au soleil, mais pour la première fois depuis fin mars, les vendeurs ambulants ont fait leur retour. Pendant 4 mois, ils n'ont pas pu travailler sur les plages interdites au public. Baiano, qui arpente Copacabana depuis plus de 10 ans, a perdu son gagne-pain. du jour au lendemain.
Ça a été très difficile de rester sans travailler, très difficile. Moi, je suis dépendant de la plage. J'ai une famille à nourrir et il n'y a que moi qui rapporte de l'argent. Donc pour moi, comme pour beaucoup de vendeurs ambulants du coin, c'est vraiment devenu très compliqué.
Vu la situation, impossible de trouver un travail ailleurs, mais comme 65 millions d'autres Brésiliens, Baiano a pu compter sur l'aide d'urgence distribuée par le gouvernement, environ 100 euros par mois, soit un tiers de ce qu'il gagne normalement, sauf que, comme beaucoup d'autres, il a eu des difficultés à faire valoir ses droits.
J'ai réussi à recevoir l'aide d'urgence, mais seulement pendant 2 mois. Donc franchement, sans la plage et sans l'aide complète, c'était loin d'être suffisant pour pouvoir offrir le confort nécessaire à une famille.
Les vendeurs ambulants sont particulièrement menacés par la crise en cours. Sur les 2,8 millions de Brésiliens qui ont perdu leur emploi depuis mai, 2,4 millions étaient des travailleurs informels. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
Mission réussie pour SpaceX, la capsule a ramené à bon port sur la Terre ferme les 2 astronautes de la NASA après 2 mois dans l'espace. Cette victoire de la société d'Elon Musk ouvre la voie à des vols réguliers avec Dragon, ce nouveau véhicule spatial. La drague au temps du Covid, c'est pas simple. Après 2 mois de disette amoureuse, les jeunes réinventent les codes de la séduction. Comment s'approcher avec la distanciation, s'embrasser avec un masque, flirter avec des barrières. Entre frustration et transgression, enquête au temps des jeux de l'amour et du bazar de Bénédicte Robin.
Soleil, chaleur, terrasse au bord du bassin de la Villette, sourire, démasqué, le Covid, Julie l'a presque laissé derrière elle.
Je fais attention, mais enfin bon, il faut bien continuer à vivre.
Ça change pas vos relations aux personnes que vous rencontrez?
Non, pas tellement.
Après, tu te jetais pas sur tout le monde non plus avant le Covid.
Non, voilà, c'est ça.
Lui non plus ne se jette pas sur tout le monde, mais pour Thomas...
C'est même plus simple, je dirais. Je trouve qu'après un mois et demi, 2 mois de confinement... Tout le monde a beaucoup plus envie de sortir, tout le monde est beaucoup plus avenant, on fait tous de nouvelles rencontres.
Mais quand même avec de la retenue.
C'est quand même une épidémie, c'est se protéger aussi quand on rencontre du monde. Mais bon, pour moi c'est comme le sida, c'est compliqué de démarrer une rencontre en demandant si la personne a fait le test.
Lucie a rencontré Macha tout récemment via une application.
La première bise n'existe plus, tout de suite on s'assied, on boit un verre et éventuellement on réfléchit avant de passer à autre chose. Mais ouais, tous ces premiers contacts-là n'existent plus. Ouais. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que je trouve que dans la drague c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ce côté un peu sensuel, charnel de démarrage. On navigue un peu à l'aveugle. Hein.
Où on renonce carrément.
C'est moins la priorité que ça pouvait l'être avant. Ouais, je ressens vraiment le moment de retrouver tous les gens qu'on n'a pas vus pendant le confinement, des gens qui reviennent de l'étranger, avec les gens déjà qu'on apprécie avant de passer à l'étape de des gens qu'on rencontre.
Donc ce sera un été sans alors.
Ça sera un été serein.
Sans la fièvre transmise par Cupidon.
Et pour vous, Laurent, c'est avec ou sans Max? Sans masque. Sans Max. Vous répondez pas?
Non.
Vous n'osez pas?
Non.
Vous êtes timide. Merci Laurence Thomas, on vous retrouve tout à l'heure à 9h.